Voilà donc la fameuse arche de Noé. Les enfants aiment bien cette histoire. Beaucoup voient une histoire charmante, une histoire qui interpelle. Nous sommes bien habitués, nous tous, de voir les dessins mignons de l'arche de Noé. Toujours la tête du girafe qui sort par la fenêtre, plus haute que tous les autres. Je crois que si vous allez dans une des classes d'enfants, il y a un dessin, un joli dessin, de l'arche de Noé sur un mur, et puis l'arc-en-ciel de l'autre, sur l'autre mur. Belle histoire. Mais en même temps, la réalité du déluge, c'est pas vraiment une histoire charmante. La réalité du déluge, c'est quelque chose de troublant, de violent, de dramatique. Peut-être vous avez vu ce tableau de Gustave Doré, un peintre français qui a illustré beaucoup de contes et d'histoires, et la Bible aussi. Son dessin du déluge est assez dramatique, il capte bien le catastrophe de la chose. Son dessin, vous le verrez jamais en coloriage enfant, parce que c'est tout le contraire. Il y a une famille qui essaie de s'échapper au déluge, les eaux montent et ils trouvent un petit îlot où trouver refuge, mais sur ce même petit îlot, il y a une famille de tigres. Alors, c'est dramatique pour tout le monde. Et on voit la peur, l'inquiétude, le drame que représente. Et certainement, Gustave Doré a mieux capté la réalité du déluge que nos dessins mignons qu'on a l'habitude de voir. Alors, que penser de ce déluge? Que se passer de cette histoire de l'arche de Noé? C'est vrai, dans les premiers chapitres, on a vu le Dieu créateur. SMS nous a rappelé ça par le chant, le Dieu qui nous a créés. On découvre nos origines dans ce livre de Genèse. Mais ces chapitres, avec l'histoire du déluge qui va suivre dans les chapitres suivants aussi, ces chapitres présentent non seulement le Dieu créateur, mais le Dieu juge, le Dieu juste, le Dieu de jugement. Alors c'est vrai, de telles histoires dans la Bible ont pu donner une réputation à ce Dieu de l'Ancien Testament, comme quoi il serait un Dieu violent, un Dieu colérique. Et on se dit qu'à notre époque, avec toute la violence et tous les problèmes dans la société, on se dit que c'est justement la chose qu'il ne nous faut pas, c'est un Dieu violent comme ça, un Dieu justicier. On n'a pas besoin de plus de violence, plus d'intolérance. Alors, ce genre d'histoire ne nous rend pas service. Mais j'aimerais voir ce matin que ce texte, je pense, apporte une vision bénéfique pour le monde et pour nos vies. J'étais interpellé par ce que dit un certain Miroslav Volf. C'est un théologien de la Croatie, un théologien croate protestant. Et lui, il a vu la guerre et la violence ravager son pays. Il a réfléchi à ces questions. Et d'après lui, d'après ses écrits qui récents, lui, il dit, et c'est intéressant, il dit, pour envisager des solutions non violentes entre les hommes, il faut un Dieu juste, il faut une justice finale, il faut un Dieu juge pour ne pas prendre les choses en main soi-même, mais pour faire confiance et espérer une justice finale dans ce monde. Si nous, les hommes, nous pensons qu'il n'y a pas de justice, la tendance sera de prendre les choses en main, et ça, on n'en finit pas avec un cycle de violence. Mais si on peut être confiant qu'il y a un Dieu juge et qu'un jour justice sera faite, une parfaite justice, ça nous permet de vivre sereinement, même en paix avec les autres, même avec ceux à qui on n'est pas d'accord. Je pense que vous le savez, si quelqu'un cambriole votre maison, si quelqu'un vient kidnapper vos enfants, là, vous voudriez qu'il y ait des forces de l'ordre, on parle des forces de l'ordre, qui sont là, qui sont prêts à utiliser la force, même la violence, pour sauver, pour protéger, pour préserver. Vous êtes plutôt content qu'il y ait un juge qui est là pour sanctionner, pour donner une punition. Et c'est ce qui préserve la société. Une société sans un système de justice sombre dans la violence et le chaos. Alors ce texte nous rappelle que finalement, on va dire la bonne nouvelle de ce texte, c'est que nous vivons dans un monde, nous vivons dans une réalité où justice sera faite. Où il y a un Dieu juge qui peut intervenir. Donc c'est vrai, c'est l'histoire de jugement. Mais vous avez aussi remarqué qu'au milieu de tout ça, nous trouvons la première mention de la grâce. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc c'était aussi une histoire de grâce et de protection, et certainement c'est pour ça que les enfants sont vite interpellés par cette histoire. L'histoire du déluge, c'est aussi l'histoire des nouveaux commencements, le Dieu des nouveaux commencements, le Dieu protecteur, le Dieu qui aime les animaux, le Dieu qui aime sa création. Nous sommes aussi interpellés par ces thèmes-là dans le déluge, et les enfants accrochent vite en tout cas. C'est pour ça que dans les écoles de dimanche, on va décorer les murs avec des arches, par exemple, des animaux. Alors, c'est une histoire de jugement, c'est aussi une histoire de grâce et de salut. Et comment réconcilier cela? Et je vous soumets que c'est quand même le grand projet de la Bible, c'est de nous aider à réconcilier, à comprendre à la fois la justice de Dieu, à la fois la grâce de Dieu. Et il y a le jugement ici, il y a aussi la grâce et le salut. Le défi pour celui qui veut comprendre la Bible, comprendre la vie, comprendre le monde, c'est réconcilier ces deux choses. Mais on en a besoin tous les jours pour envisager un monde. On voit qu'il y a des injustices, on souhaite injustice, mais on veut aussi, on est interpellé par l'amour et la grâce. Comment réconcilier tout ça? Et donc, ce matin, nous allons voir dans ces origines que nous présente le livre de Genèse. Nous avons les origines du jugement et de la grâce qui sont ici captés, illustrés dans l'histoire de Noé et du déluge. Et pour nous aider à comprendre tout cela, ce texte nous présente le cœur corrompu de l'homme, ensuite le cœur complexe de Dieu, et enfin on va essayer de comprendre ce coffre curieux qu'a dû construire Noé. Voilà, le cœur corrompu de l'homme, c'est ce qui ressort dans les premiers versets. Alors, quand il y a un événement dramatique, quand il y a un événement qui bouleverse l'histoire, on se penche sur les facteurs qui ont conduit à l'événement. Et c'est ce que veut faire chapitre 6. Le déluge n'arrive qu'en chapitre 7, 8, qu'on verra une prochaine fois. Ce matin, c'est surtout les événements qui ont conduit au déluge. Et vous savez que dans toutes les mythologies, tous les récits de l'Antiquité, tout évoque un déluge. C'est curieux, mais il y a comme un souvenir collectif dans toutes les traditions. Il y a un souvenir collectif d'un déluge. Et beaucoup pensent que justement, ça pointe vers le fait qu'un tel événement, exactement quand et comment, on ne sait pas, mais un tel événement a pu se produire si quantité de traditions, quantité de mythologies évoquent un déluge. Mais quand on creuse, quand on lit ces mythes et ces récits, bien sûr, les détails et les raisons pour le déluge varient. C'est là où la Bible apporte un éclairage pour nous. D'après d'autres mythes, le déluge, ce serait parce que les dieux craignaient une surpopulation des hommes, alors ils voulaient éradiquer tout ça. Ça, c'est d'après un récit. Un autre récit, c'est intéressant, c'était à cause du bruit que faisait l'humanité, qui gênait le sommeil des dieux. Alors, ils n'aimaient pas être dérangés dans leur sommeil par le bruit que faisait l'humanité, alors ils ont envoyé le déluge. Alors bon, ça c'est... Mais ici, les raisons sont quand même parlantes. Ce qui ressort clairement, c'est à cause de la corruption et de la violence de l'humanité. Cette méchanceté, cette corruption qui était devenue universelle. Et c'est ça qui est fort, je crois. C'est Augustin qui a souligné que cette histoire du déluge, finalement, l'impact encore aujourd'hui, c'est d'encourager une conduite morale, un comportement juste et bien parmi l'humanité. L'effet de ce texte, c'est de responsabiliser l'humanité dans son comportement et de rappeler que oui, parmi les hommes, il y a le bien et le mal, et Dieu s'intéresse à ce que nous faisons et de la manière que nous vivons. Et ça, c'est très fort. Responsabiliser l'humanité, c'est la base de tout système de justice. Si on n'est pas responsable de ses actes, et aussi on ne sait pas à quoi on attend de nous, ou qu'il n'y a aucune justice ou jugement, voilà, il ne peut pas y avoir de justice. Et c'est ce qui ressort clairement ici, c'est que voilà, Dieu tient l'homme responsable de ses actes. Alors, par contre, d'un autre côté, le schéma évolutionniste, purement matérialiste, c'est moins évident d'arriver à cette responsabilité humaine de notre comportement, de nos actes. Parce que, comme vous savez, le hasard et la nature toute seule, la nature elle-même, n'ont pas un avis sur la violence et la corruption. C'est comme parmi les animaux. Parmi le royaume animalier, personne déplore la corruption, la violence, la polygamie, le viol. C'est pour les animaux, c'est un non-sens. J'ai vu récemment, vous avez peut-être vu ça, il y a une vidéo d'un héron, cet oiseau, un héron, qui mange un poisson, qui attaque et mange un poisson. Alors, c'est d'une violence inouïe. Mais personne n'appelle la police en disant « Ah, un héron attaque un poisson, c'est pas bien. » Mais si nous les hommes se permettaient un tel comportement, entre comme j'ai vu sur cette vidéo, c'est dramatique. Et le monde était venu à là, et c'est dramatique quand on voit la violence et la corruption qui peut exister parmi les êtres humains. Donc, si tout est le produit du hasard, c'est moins évident de voir qu'on est tenu moralement responsable de nos actes, puisque la nature n'a pas un avis sur le sujet. Par contre, Dieu, lui, il nous a créés à son image, et on sait que dans ce monde-là, cette réalité, la violence et la corruption sont moins bien. Il faut, la paix et la justice sont préférables à la violence et la corruption. D'où vient ça? Eh bien, c'est plutôt les textes bibliques, le récit de nos origines en Genèse qui colle avec cette réalité. Alors ici, nous voyons que, avec le temps, la corruption, le cœur corrompu de l'homme devient de pire en pire. Et le but de ce texte, c'est de rappeler, c'est de montrer qu'à un moment, un seuil dans le mal a été franchi, en tout cas à cette époque. Un seuil dans le mal, un seuil, vraiment, le mal est devenu intolérable, irréparable. Alors vous avez ces versets très difficiles à comprendre, que je vais pas pouvoir bien expliquer, puisqu'ils sont très difficiles à comprendre. Mais quand il dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Il y avait des géants sur la terre, c'était les célèbres héros de l'Antiquité. Qu'est-ce qui se passe dans ces versets? Les avis divergent, plusieurs interprétations. D'après certains, les fils de Dieu, ce seraient les hommes fidèles de la lignée de Seth, dont on a vu en chapitre 5. Mais ces hommes fidèles ont finalement commencé à épouser les païennes, les filles des hommes, c'est-à-dire des incroyantes. Et ce serait donc un avertissement pour Israël, parce que c'est vrai que dans la suite de l'histoire d'Israël, c'était souvent un problème. Ils se sont tournés vers ils se sont mariés avec les peuples étrangers pour ensuite être conduits dans l'idolâtrie. Donc, certains pensent que c'est déjà le cas ici. Mais le problème, c'est que cela n'explique pas leur progéniture, on va dire bizarre, ni la sévérité de la sentence d'éradiquer le monde entier. L'autre interprétation, et c'est ce que les Juifs au temps biblique pensaient, et on voit que les auteurs du Nouveau Testament s'appuient sur cette interprétation, c'est que ces fils de Dieu, c'est une expression dans la Bible, dans l'Ancien Testament, pour parler des anges, et ces fils de Dieu, ce seraient des anges déchus. D'ailleurs, le mot géant, c'est pas géant, c'est néphilim dans l'hébreu. Néphilim, littéralement, les déchus. Et donc, il y avait des déchus, il y a des êtres déchus sur la terre à cette époque-là. Et le Nouveau Testament évoque ça plusieurs fois. Bon, il faut étudier un peu, mais Jude, par exemple, dit que les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure au temps de Noé, on pense qu'il fait référence ici à cette histoire. En tout cas, vous pouvez me poser plus de questions après, si vous voulez, mais il semble qu'on a ici les origines d'une activité démoniaque, qu'on va trouver un peu ce thème aussi dans la Bible, Satan et les esprits, les anges déchus, et qui vont agir pour le mal. Ces origines d'une activité démoniaque, avec cette capacité de maîtriser des personnes, ou même d'entrer ou de posséder des personnes, comme nous voyons même dans les évangiles, avec des confrontations avec Jésus. Encore la difficulté que nous savons, Jésus lui-même a affirmé, que les anges ne se marient pas, les anges ne se procréent pas, donc comment comprendre que les fils de Dieu se sont mariés avec des filles, des hommes? Mais peut-être s'il y avait une emprise démoniaque, s'il y avait une espèce de possession, notamment des rois, des chefs militaires, des dirigeants de cette époque. Voilà, on peut comprendre une progéniture encore plus déchue. En tout cas, on met aussi l'accent dans le Nouveau Testament, quand il parle de ce texte, on met l'accent sur un penchant sensuel, un penchant sexuel, ou une perversion du mariage suite à une activité des êtres déchus qui pourraient être ces démons. En tout cas, ce que nous pouvons retenir, c'est qu'il y a une corruption totale de l'humanité, assez dramatique, avec cette démonisation du mariage, de la sexualité, de la reproduction, une célébration de la violence et de la corruption qui a atteint toute chair, dit le texte. Pour arriver à ce bilan dramatique, l'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Donc beaucoup, constamment, uniquement. La situation est dramatique. Alors, quand on veut appliquer ça de nos jours, c'est sûr qu'on ne peut pas dire que toutes les pensées de tous les hommes se portent uniquement vers le mal. D'ailleurs, Dieu a freiné le mal et il a promis que les choses n'allaient pas arriver à ce point-là. Dans un sens, et il y a des influences positives, notamment l'Église, l'Évangile, la lumière qui vient de Dieu. Mais c'est sûr, quand on lit ce texte et qu'on réfléchit sur le cœur corrompu de l'homme, on ne peut pas ne pas penser à des choses inquiétantes de notre époque. Aujourd'hui, quels sites web reçoivent le plus de trafic? Aujourd'hui, comment se comportent nos héros, nos personnages célèbres, nos célébrités? On voit quand même une célébration de la violence, de la sensualité, qui est inquiétante. Et le verdict biblique sur le cœur humain, la manière que le cœur humain a un penchant vers le mal, semble caler plus avec la réalité que nous voyons que le contraire, que l'homme est bon et ne cesse de s'améliorer. Ce serait difficile de prouver à notre époque que l'homme s'améliore moralement de plus en plus si on examine l'ensemble même de l'art et de notre culture en Occident. Alors, le cœur corrompu de l'homme, c'est la cause de ce déluge, contrairement à d'autres récits. Et ça ne peut que nous interpeller, nous responsabiliser, nous aider à préférer la paix et la justice à la violence et à la corruption. Voilà le premier effet de ce texte. Mais juste après avoir parlé du cœur de l'homme, le verset 6 dit que l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. Donc on parle du cœur de l'homme et puis on parle du cœur de Dieu. Ça c'est intéressant. Avec des termes humains, on essaie de décrire les pensées, les démarches de Dieu. Et on parle de son cœur et nous allons voir que c'est pas... Quand on examine le cœur de Dieu dans ce passage et à travers la Bible, nous découvrons ce que j'appelle un cœur complexe. On va voir des pensées, des sentiments étonnants ici, qui nous aident à comprendre Dieu et son plan. Je crois qu'il y a un fromage qui s'appelle le caprice des dieux, non ? Beaucoup voient ce déluge et des autres histoires dans la Bible comme, voilà, c'est le caprice des dieux, ou le caprice d'un dieu, un dieu colérique, un dieu violent, voilà, et il n'est pas content, alors il foudroie les gens, et tant pis pour eux, il prend un malin plaisir à détruire sa création. Mais ce que nous voyons ici, c'est pas le caprice du dieu, c'est pas le caprice des dieux dans le récit de Genèse, en tout cas, d'autres récits, oui, les dieux n'arrivent pas à dormir, donc ils détruisent les gens, mais ici, c'est pas le cas, on voit un cœur complexe, un désir de justice, mais aussi un cœur peiné, attaché à sa création. Alors c'est vrai que pour nous, c'est tellement rare de voir une colère saine et constructive parmi les hommes que nous estimons forcément que la colère ou la violence est une faiblesse, un défaut. Mais vous voyez bien ici que la justice et la colère ne sont pas les seuls sentiments qui animent Dieu. Quand il dit qu'il a le cœur peiné, il a le cœur affligé, ça c'est touchant, le cœur de Dieu est affecté par ce que font les hommes. Pour être peiné, pour être affligé, forcément il faut aimer, il faut être attaché à la chose qui produit la peine. Si vous entendez sur les infos la nouvelle de quelqu'un qui est mort, qui est décédé, vous pouvez vous attrister peut-être un peu, mais si ce n'est pas votre famille ou si ça ne vous concerne pas, vous n'êtes pas si peiné que ça. Mais si c'est un être cher, si un membre de votre famille qui était dans le crash de l'avion ou qui était touché par les terroristes, là, ça change. Vous êtes vraiment peiné. Pourquoi? Parce que vous aimez, vous êtes attaché à la personne. Et si Dieu est peiné, ça montre qu'il aime, qu'il est attaché à l'humanité qu'il a créée. Même c'est fort, le verset dit qu'il regrette, ou le texte hébreu, il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Alors ça c'est étonnant, un peu bizarre de parler de la repentance de Dieu. On est plutôt habitué à parler de la repentance des hommes et nous savons à peu près ce que c'est que pour un homme de se repentir, c'est Dieu, j'ai fait une boulette, j'ai fait une erreur, j'ai mal agi, je regrette. Alors c'est vrai que cette idée ne s'applique pas à Dieu. Dieu est parfait. Et il y a des versets dans la Bible qui disent que Dieu ne se repent pas comme un homme. Dieu ne regrette pas ses actions. Dans ce sens, il n'a pas commis une erreur dans la création. Mais quand on parle de la repentance de Dieu ou le regret, c'est qu'il voit une situation et il change de cap dans la manière de procéder, dans sa volonté révélée aux hommes. Il voulait bénir sa création, mais maintenant toute sa création se rebelle contre lui. Alors il change, il est affecté, mais il dit « je dois faire justice ». Mais ce regret, cette repentance, cette peine montre un cœur rempli d'amour finalement, amour pour la bonne création qu'il a faite. On sait aussi que ce n'est pas un coup de tête. Ce Dieu, nous-mêmes, on est habitués, quand on parle de la colère ou le jugement, on s'emporte et puis on essaie de faire avancer la justice. Mais ce n'est pas ce qu'on voit ici non plus. On voit un Dieu qui a une démarche très patiente. D'ailleurs, il dit, 120 ans, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que de chair, il vivra 120 ans. Je pense qu'il y a un double sens dans ce 120 ans, parce qu'il y a encore entre ce moment et le moment que le déluge arrive, à peu près 120 ans. Et puis plus tard, Dieu va dire que je vais limiter l'âge de l'homme à peu près 120 ans. Mais on voit qu'il avance avec grande patience, il donne encore un siècle entier à l'homme pour réfléchir, pour changer. Un verset du Nouveau Testament parle de la patience de Dieu qui se prolongeait au jour de Noé. Donc il y avait une période de grâce de 120 ans. C'est beaucoup, c'est énorme. Là encore, on ne voit pas que c'est une caprice. Ce n'était pas un coup de tête. Et l'homme était averti. Noé était un prédicateur de justice, dit la Bible, et par l'arche qu'il a construit, et lui-même semblait avoir prêché le message de justice et de jugement et d'avertissement. Et la porte de l'arche était ouverte à qui voulait entrer. Donc, voilà le cœur de Dieu. Vous voyez un cœur rempli de justice, mais aussi rempli d'attachement, d'amour, rempli de peine pour cette violence et cette corruption qui saccage, qui sabote sa bonne création. Alors, qu'est-ce que vous faites? C'est là où on voit que ce n'est pas évident, il faut être Dieu pour être Dieu. Qu'est-ce que vous faites devant tout ça? Que feriez-vous? Imaginons que vous êtes parent et votre enfant de 2-3 ans joue dehors avec un vélo que vous lui avez donné, ou acheté ou fabriqué, et qu'il y a une bande de voyous qui passe par là et qui tabasse votre enfant, qui casse le vélo et qui s'en vend. Qu'est-ce que vous faites? Quel sentiment jaillit en vous? Vous voulez pas? Il y a de colère, mais c'est vrai, faut-il être violent sur le moment et tabasser en retour ces voyous? Ok, on peut dire, bon, j'appelle la police, comme ça je. Mais Dieu, lui, ne peut pas appeler la police. Il est Dieu, donc il doit gérer tout ça. Comment gérer un univers où il a donné la capacité à l'homme d'être moralement responsable de ses actes? C'est ça le défi, c'est ça le cœur complexe de Dieu. Il est à la fois infiniment bon, infiniment juste, infiniment amour. Qu'est-ce qu'il fait? Concrètement, comment juger et sauver à la fois. Comment enlever la violence et la corruption tout en préservant la création, tout en montrant son amour. C'est déjà le défi de ce texte et ce serait un peu le grand défi de toute la Bible et de nos existences. Comment être juste et amour à la fois? Eh bien, la réponse est ce coffre curieux de Noé. En verset 14, il dit « Fais-toi une arche, fais-toi un bateau ». Nous avons l'habitude de parler d'une arche, et dans notre tête, une arche, ça veut dire bateau. Mais le mot hébreu signifie pas, à cette époque, il n'y avait pas une connotation maritime, on va dire, il n'y avait pas, et c'était pas un bateau que Dieu lui demande de faire. Le mot littéralement, c'est fais-toi un coffre, fais-toi une caisse, fais-toi une boîte. C'est même un mot très rare dans l'hébreu, on pense que plutôt d'origine égyptienne, un mot qui voulait dire cercueil. Fais-toi un coffre, fais-toi un carton, fais-toi une boîte, fais-toi un cercueil. La seule autre fois qu'on trouve ce mot arche ou caisse ou coffre, c'est lorsque Moïse lui-même, bébé, a été mis dans une arche, mis dans un coffre, un couffin, pour aussi enduit de poids et de bitume, pour échapper aux eaux du Nil. Alors ici dans le texte, les dimensions sont précises et il faut dire que ça tient la route. Si vous voulez les étudier, vous pouvez faire ça. Récemment, Le Monde avait publié un article comme quoi les étudiants de l'université de Leicester ont montré que mathématiquement, scientifiquement, ça tient la route, ou ça tient l'eau, je ne sais pas comment il faut dire. Dans les dessins que vous voyez, c'est pas possible, quoi. Le bateau renverserait immédiatement, il n'y aurait pas de taille pour les animaux, ou ça tiendrait pas dans une grande déluge cataclysmique. C'était pas un petit voilier. Mais ceux qui se sont penchés sur, en plus, on a des mesures et des placements dans l'eau et tout ça, donc ça tient la route. En plus, ils estiment, et les scientifiques disent que la taille moyenne de tous les animaux, c'est un mouton. Alors, ils comptent le nombre des espèces, ils multiplient, et si on prend la taille moyenne de mouton, et il se trouve qu'il y avait quand même assez de place pour tout ça. Donc, bon, ça tient la route en tout cas. Mais finalement, à quoi servait ce coffre? Pourquoi cette démarche? Dieu aurait pu retirer Noé au-dessus des nuages, et puis le temps du déluge et le remettre sur la terre. Pourquoi Noé doit vivre lui-même dans le déluge, dans ce coffre qui ressemble étrangement à un cercueil, d'après le mot et d'après la forme. Ah ben vous voyez, on a déjà dit le cœur complexe de Dieu, c'est pas si simple. La corruption, la violence étaient partout sur la terre. Et si vous regardez la suite dans l'histoire de Noé, Noé lui-même a fait des bêtises. Noé lui-même avait quelques problèmes de corruption. Et ce verset dit que Noé trouvait grâce. Dieu décide de faire grâce à Noé. Noé n'était pas plus méritant forcément que les autres. Noé a reçu, était bénéficiaire de la grâce de Dieu. Et c'est ça qui, quand Dieu juge, il ne met pas de côté son amour, sa grâce, mais quand il fait grâce, il ne met pas de côté sa justice. D'où il fallait ce coffre, cette caisse, ce cercueil, parce que à l'intérieur de ce coffre, Noé et sa famille, ils vont pouvoir eux aussi subir le jugement tout en étant, en ayant la vie sauve, la vie préservée. Comme nous avons évoqué tout au long de notre culte ce matin, un abri. Mais Noé et sa famille traversent eux aussi le jugement. Dans un sens, ils n'échappent pas au jugement, ils vivent le jugement, mais ils en sortent vivants, ils en sortent victorieux. Alors évidemment, ça c'est des origines ici qui essaient de réconcilier le jugement de Dieu et la grâce de Dieu. Et toute la Bible pointe vers le jour où Dieu va faire la même chose pour nous de manière définitive, de manière réelle, notamment à la croix. Et la croix, elle est vraiment notre arche. Alors vous allez dire, oui, c'est un symbole curieux de salut que la croix, une source de mort. Mais c'est justement là où Dieu réconcilie sa justice, son jugement et son amour. C'est Dieu dirige sa justice, sa violence même, sa colère, non pas contre l'humanité, mais contre son propre fils. Et ceux qui sont en lui, ils vivent. Ils traversent la mort, ils vivent une mort, mais en sortent vivants, parce qu'ils sont en Christ, ils meurent avec Christ, et ils ressuscitent avec Christ. C'est pour ça d'ailleurs que le Nouveau Testament dit que le baptême, l'image du baptême, tire, vient du déluge. Et tout comme Noé a vécu une espèce de baptême, il a été enseveli dans les eaux pour sortir vivant, tout ça pointe vers l'œuvre de Christ pour nous. Donc vous voyez ce coffre curieux, eh bien c'était pour que le jugement s'abat sur Noé, mais Noé était à l'intérieur, il était protégé. Alors nous, on trouve que les enfants, c'est un peu curieux d'avoir des dessins de l'arche de Noé. C'était un jugement dramatique et pourtant on va se réjouir. Mais les enfants pourraient nous regarder et dire, vous avez un dessin curieux sur votre mur. C'est aussi un symbole de mort, mais c'est source de joie et de vie aussi. Comment cela? Eh bien, c'est parce que Dieu a été juste à la croix pour nous sauver. Et tout comme la foi de Noé est de construire, de monter dans l'arche, la foi pour nous, c'est de se placer en Christ, c'est de reconnaître que lui, il a pris la colère à notre place. Mais quand on est en lui, on est protégé. Et je termine en célébrant, en félicitant la foi de Noé. Sa foi est un exemple pour nous, dit le Nouveau Testament. Il faut dire que ce qu'il a dû faire, c'était vraiment une démarche de foi. Il fallait une grande foi pour faire ce qu'a fait Noé. Il avait la parole de Dieu et le verset final dit, il s'est conformé à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Il a construit cette arche, ce bateau, mais mettez-vous à sa place. Il n'y avait pas de chantier naval, il n'y avait pas de port. Il a peut-être fait ça au milieu de son champ, au milieu de son jardin. On comprend bien que les voisins, tous les gens à des kilomètres à la ronde s'interrogent sur ce qu'il fait. Les gens devaient parler de la folie de Noé qui était en train de construire dans son champ. Qu'est-ce que tu es en train de construire? Eh bien, je construis une caisse, je construis un coffre, je construis une boîte et je veux me mettre dedans pour échapper au jugement de Dieu. Mais, et pourtant, c'est ce que Noé a fait. Il a continué dans cette démarche. Il fallait la construction a pris 100 ans, donc c'était toute une vie de foi. Et Dieu nous encourage à cette vie de foi. J'imagine, il y a les voisins de Noé. Qu'est-ce que tu fais ce dimanche, Noé? Viens avec nous à la chasse. Il devait y avoir même des jours où Noé se demandait est-ce que ce truc va flotter, que je suis en train de faire avec moi et famille, je ne suis pas un expert dans la construction navale, est-ce que ça va flotter? Il pouvait même lui avoir des doutes, mais le résultat, c'est qu'il a quand même placé sa foi dans cette arche, il a eu la vie sauve. Et toute la Bible dit, malgré nos doutes, malgré un monde autour qui peut-être ne pas comprendre notre démarche, la foi, c'est de se placer dans l'abri, dans le salut que Dieu a offert en Jésus-Christ.